Bonjour, bonjour à tous. Je vais ouvrir la séance. Si jamais il y a un problème de son, voilà, vous me dites dans le chat. Je tenais d'ores et déjà à tous vous remercier d'être présents à distance aujourd'hui, même si bien sûr on préférerait être présents à proximité. Donc pour la reprise du séminaire de philosophie de l'Université de Rouen, cette reprise, c'est en fait la seconde séance de l'année, après celle du 19 octobre dernier avec Louis Rouillet, car on a dû reporter en fait deux séances qui étaient initialement prévues en novembre et en décembre dernier, celle d'Armand Guillot, qui est reportée, décalée début avril, et puis celle de Lucie Wesel, qui sera décalée pour la rentrée de l'année prochaine. J'annonce d'ores et déjà aussi que la troisième séance du séminaire aura lieu le 18 février prochain, vraisemblablement à distance, et nous accueillerons alors le récent docteur Mathieu Echenier, qui interviendra sur le thème Être est avoir, sur l'avoir Dieu heideggerien. Alors, j'essaierai d'ailleurs pendant la séance là, de mettre le programme du séminaire dans le chat, voilà, si les gens. Si ça intéresse les gens d'avoir justement la date des prochaines séances. Alors, je profite également de cette ouverture pour remercier chaleureusement aussi bien Sylvain Roudot, qui a initié ce séminaire l'année dernière, qu'Alexis Delamarre, avec qui j'organise les séances cette année, pour leur investissement dans un séminaire de philosophie ouvert à tous, et particulièrement à tous les étudiants, qui a pour vocation de sensibiliser à la recherche philosophique, à sa vitalité et à sa richesse, de rendre aussi accessibles ces sujets pointus, et peut-être même de donner des idées à certains pour se lancer dans la recherche. Voilà, je vais aller assez rapidement, mais j'en viens quand même au plus important, puisqu'aujourd'hui, c'est avec une grande joie que nous accueillons Anna Illich. Elle est professeure de philosophie dans le secondaire, au lycée Georges Sand, dans le Val d'Oise, et c'est une professeure très investie qui a rédigé le chapitre sur le temps dans le tout récent manuel de philosophie de l'édition Bordas. Et à côté de son professorat, c'est une jeune philosophe qui enracine ses recherches dans la philosophie française contemporaine depuis quelques années. Ainsi, dès le Master 2, elle a travaillé à confronter Lyotard et Deleuze autour du concept d'enfance. Aujourd'hui, elle nous fait le plaisir de réinvestir la philosophie de Simone de Beauvoir pour penser la parure, tout en l'articulant à l'ethnologie de Biberos et Castro, pour essayer de repenser justement les rapports entre nature et culture, corps et monde, tel qu'elle le décrivait dans son petit texte de présentation. Et puis, je remercie donc d'ores et déjà Anna d'être venue pour nous éclaircir sur ce thème, et je vais lui céder la parole d'ici peu de temps. Mais juste avant, je voudrais faire une remarque encore sur le déroulé de la séance. Après chaque intervention, on va essayer d'avoir un répondant ou une répondante qualifiée pour entamer la discussion avec l'invité. Et ce soir, on a l'honneur d'avoir Nathalie Deprat pour répondante. Bon, pour tous ceux qui la connaissent à Rouen et même ailleurs, ou au-delà, j'ose à peine la présenter, elle est professeure de philosophie donc à l'Université de Rouen. C'est une phénoménologue de renom, une grande traductrice de Edmund Husserl, puis elle s'est aussi frottée à l'écriture de romans. Bref, c'est une intellectuelle complète, engagée, aussi hyperactive que généreuse. C'est donc vraiment une répondante de luxe pour cette reprise qu'on a le plaisir d'avoir. Et en plus, elle a eu la grande gentillesse de bien vouloir nous prêter sa salle virtuelle BBB. Donc, je tenais évidemment à chaleureusement la remercier. Ce n'est donc qu'après cette discussion entre Anna et Nathalie que chacun pourra poser des questions à notre intervenante. Il pourra soit écrire sa question sur le chat, soit signaler sur le chat qu'il a une question et puis la poser oralement. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je ne monopolise pas plus la parole et je la laisse à Anna Illich pour son exposé.
Alors, vous m'entendez? Est-ce que vous voulez absolument la vidéo ou le son vous suffit?
Essayons la vidéo.
On essaie la vidéo? Je me dépêche. vous donner un peu de temps. Merci. Pardon pour ce flottement. Alors, merci. Je commence par remercier Aurélien Dodon pour cette invitation, Nathalie Deprat pour avoir accepté d'être ma répondante. Et je suis évidemment honorée d'inaugurer ce séminaire dans ce contexte particulier, évidemment, de la distance. Et je souhaite évidemment aux étudiants de pouvoir reprendre le plus vite possible en présence. Donc, il s'agira de partir d'un extrait précis situé dans le tome 1 du deuxième sexe que je vous ai du coup mis dans les notes partagées si vous voulez lire en même temps pour avoir une idée précise du texte qui va nous occuper. Et je vais commencer rapidement par une petite justification du sujet, une justification qui est double. D'une part, il est certain que mon discours est, sinon conditionné, en tout cas favorisé, enfin, qu'il bénéficie de tout un contexte dans lequel on revalorise un autre champ, notamment dans la production de qui mais aussi et académique, mais aussi militante. De pensée qu'on pourrait qui vise à diffuser le féminisme, mais aussi à revenir à la pensée de Simone de Beauvoir, et notamment dans ce qu'elle a de philosophique. Donc, en ce sens, on peut penser à la récente publication de Manon Garcia, qui est particulièrement représentative de ce qui se passe en ce moment, en dur où son ambition était aussi de diffuser, en dehors du champ purement académique, sa pensée. Et donc, sans non plus faire une archéologie de mon discours, j'ai conscience que s'il est possible, en tout cas si on peut lui faire, s'il a carrément de l'attention, c'est aussi parce qu'il bénéficie de tout un contexte dans lequel on revient à la pensée de Beauvoir. Et à cet égard, il est significatif que Simone de Beauvoir soit rentrée dans le programme de philosophie du secondaire. Maintenant, elle fait partie des autrices qui sont officiellement au programme. Donc voilà, tout un contexte qui sans doute explique finalement l'attention à ce sujet-là. Et la seconde raison, elle est un peu plus personnelle. Elle trouve son origine dans ma pratique de professeur, parce que j'ai ouvert ce texte à la faveur d'un cours que j'ai fait dans le secondaire. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte qu'il avait plus de difficultés qu'il n'en avait au premier abord. Ça va, vous m'entendez? Je vois que Nathalie écrit. Ok, je coupe la vidéo. Ah, ouais, je suis désolée. J'espère que la technique va suivre. Donc, mon projet originel consistait dans une espèce d'histoire du concept de parure. L'idée, c'était de décliner ce concept en partant du texte de Simone de Beauvoir et de refaire un trajet qui passait par la mascarade féminine chez Lacan, puisque il me semble qu'il y a potentiellement un dialogue invisible entre ces auteurs. Donc, qui devait passer par la mascarade féminine chez Lacan et se déployer et passer l'Iros de Castro dans la mesure où, avec métaphysique cannibale, l'Iros de Castro renouvelle à la fois la méthode et l'objet de l'ethnologie. Et cette lecture m'a également fait prendre conscience de l'influence de Lévi-Strauss, philosophie française du XXe siècle, et d'une certaine manière, a mis à jour ou réactivé la façon dont il pouvait influencer de façon souterraine tout un ensemble de références. Et il se trouve que le tome 1 du deuxième sexe se nourrit d'une lecture particulièrement précise de Lévi-Strauss, en particulier les structures élémentaires de la parenté. Donc, en l'état, cette présentation qui passait par ces trois moments, je ne peux pas vous la présenter de façon suffisamment rigoureuse, donc là, il s'agit d'un résultat intermédiaire. Donc, il s'agira surtout d'une présentation de la thèse énoncée dans la troisième partie du tome 1 du deuxième sexe, et une mise en perspective de cette thèse à partir du texte lui-même et des analyses de Villiers-Rose et Castro. Donc, pour situer très rapidement le passage, dans la troisième partie du tome 1, appelé Mythe, évidemment, ce titre est significatif et on y reviendra. Toute la première partie du tome 1, elle vise à montrer que les approches de la biologie, de la psychanalyse et du matérialisme historique sont insuffisants pour cerner le problème qui est celui de Simone de Beauvoir, à savoir qu'est-ce qu'une femme. La deuxième partie consiste en une approche historique, et ce qui articule la deuxième et la troisième partie, c'est le problème suivant: comment expliquer que les femmes aient tant de mal à être indépendantes? Et sa réponse, c'est qu'elles sont prises dans le rêve des hommes, qu'elles sont engluées dans un être pour les hommes. Donc, elle va définir le mythe comme ce qui expose la manière dont, je cite, un sujet se projette ses craintes et ses espoirs vers un ciel transcendant. Et donc, on verra que, selon elle, c'est le mythe de l'éternel féminin qui englue la femme dans son corps et, d'une certaine manière, l'empêche de devenir un sujet à part entière. Donc, si on résume, avant de la développer précisément, la thèse qui est soutenue dans cet extrait et dans cette partie, Simone de Beauvoir soutient que la fonction de la parure est de couper la femme de toute possibilité d'exister son corps, c'est-à-dire de le ressaisir dans un projet dont elle donnerait un sens. Donc, il s'agit d'une opération de chosification qui ramène le corps à sa pure facticité, dans ce qu'elle a de plus contingent, et cette facticité est idéalisée par le regard masculin. Cette thèse, elle s'articule à un projet plus large, qui est une explication, d'une certaine manière, d'un processus, justement, d'un devenir humain, on dirait d'une anthropogénèse, assez classique, c'est-à-dire qui consiste à penser le lien entre la nature et la culture. Et donc, pour expliquer ce passage, on y reviendra, Simone de Beauvoir utilise le motif de la dialectique du maître et de l'esclave, mais elle le réutilise sur un mode mineur pour repenser les rapports entre l'homme et la femme, et on verra que ce rapport entre l'homme et la femme, qui se cristallise dans la femme Paris, justement, est un intermédiaire qui est une invention propre à Simone de Beauvoir. Donc, si on l'explicite encore un peu avant d'arriver à l'étude du passage même, Simone de Beauvoir va avancer que les hommes pourraient aller au bout de ce processus pour devenir eux-mêmes et pourraient partager un monde en commun avec d'autres hommes avec lesquels ils pourraient ouvrir leur monde d'autres perspectives en coopérant, en faisant preuve de générosité et en étant amicaux, mais que la plupart des hommes sont lâches et en restent à une lutte dans laquelle ils ont peur, car ils ont peur de la reconnaissance réciproque. Donc, comme ils ont peur d'aller au bout de la lutte pour la reconnaissance, ils vont rejouer sur un mode mineur la dialectique dans la relation avec les femmes pour échapper à un véritable rapport à autrui et vont se retrouver dans une espèce de d'illusionnité dans laquelle la femme ne renverrait à l'homme que son propre regard, et où elle serait une altérité sans être un alter ego. Donc on verra dans quelle mesure le reflet qu'elle renvoie est piégé. Et donc on verra le statut particulier de la femme qui est comme un intermédiaire entre l'homme et la nature, et la mesure dans laquelle elle tient une forme de nature qui serait morte, conservée, neutralisée, et qui, d'une certaine manière, permettrait aux hommes de tenir à distance leur peur de la mort. Donc, la femme, et notamment la femme parée, elle remplit une certaine fonction, permettre aux hommes de projeter leur horreur de la chair, et en même temps refouler tout rapport à leur propre chair, puisque la relation est parfaitement asymétrique. Et donc, la femme, notamment quand elle est idéalisée et parée, est une médiation vers une nature, mais en même temps qu'elle est une médiation, elle est conjuration de tout ce que cette nature pourrait détenir d'inquiétude. et de mystérieux. Et elle est là pour arrêter le désir. Donc, c'est un intermédiaire, puisque c'est la place qui empêche son maximum de Beauvoir d'accéder à un véritable monde commun. Si je problématise un peu la notion, avant de rapidement problématiser le passage, la parure, la parure désigne l'ornement, d'accord, du corps, tous les vêtements, les artifices qui visent à embellir, à souligner la beauté d'un être. Ce qui est remarquable, c'est que ce thème de la parure intervient tout dans le premier chapitre et il s'applique au masculin, puisque page 62, Simone de Beauvoir souligne que dans le règne animal, la parade mâle manifeste la puissance de vie, qu'avec un luxe gratuit et magnifique, s'épanouit en vie. Donc on retrouve ici la thèse qui est développée par Jacques David, exposée dans la manifestation de soi, c'est-à-dire s'auto-présente, se manifeste, et que cette auto-présentation est inhérente à la vie. C'est un pur besoin de se montrer dans les dispositifs ornementaux. Donc l'idée de Vite, c'est que dès le départ, l'être se manifeste et apparaît. Et donc Simone de Beauvoir, elle affirme toujours dans cette première partie que l'homme est son corps, la femme aussi, mais son corps est autre chose qu'elle. Donc il y a une forme de distinction entre s'exister, se reprendre et être dépossédé de son corps. Donc on voit dès le départ qu'elle elle prend en compte cette autre dimension dans laquelle on peut faire s'exister le corps et dans laquelle la parure pourrait avoir une autre fonction, et qui dépasserait cette simple distinction entre la nature et la culture. Mais dans le cadre de la parure féminine, il semble que ce soit une autre modalité qui soit activée, puisque là, la parure devient un écran illusoire. C'est presque un fétiche dans le sens marxiste, dans le sens où il y a une inversion, un oubli des conditions matérielles, puisque on la croit quintessence de la féminité alors qu'elle est miroir d'un regard masculin, et on la voit idéale alors qu'elle est illusoire. Et donc ça revient ici au titre de la partie qui justement renvoie au mythe, donc à quelque chose qui serait encore une fois des histoires qu'on se raconterait, qui nous tromperaient sur la réalité. Donc ici, on voit que la parure est analysée comme un obstacle, une chimère qui empêche tout développement réciproque et symétrique de deux sujets, le sujet homme et le sujet femme, comme un instrument d'une chosification qui coupe la femme de toute transcendance. L'enjeu sera de voir si le texte ne porte que cette conception de la parure, ou si, d'une certaine manière, en pensant à une altérité qui ne renvoie à aucun alter ego et qui ne renvoie pas à la fonction d'autrui, le texte ne présente pas en lui-même une autre voie possible. Et dans ce cas-là, loin d'être une reprise classique du thème de la distinction et du passage entre la nature et la culture, la façon dont on devient un homme, donc cette fameuse anthropogénèse, peut-être qu'il laisse aussi apercevoir d'autres pistes, et cette fois-là, nous montrer comment un rapport à l'altérité peut être un accès à un désir qui serait ni social, ni intersubjectif, mais lié au cosmos. Alors, d'abord, on revient sur la thèse en elle-même, en lien avec le texte que je vous ai envoyé dans les notes. Donc, on va expliciter cette thèse que j'ai brièvement exposée. Donc là, je vais un peu plus l'expliquer. Et d'abord, on va voir les causes et les conséquences de la parure pour le sujet femme. Et dans un deuxième temps, les causes et les conséquences pour l'homme en tant que sujet. Alors, d'abord, les causes pour la femme en tant que sujet. Si on décrit ce dispositif de la parure, et si on se place du coup du côté de ce dispositif même, on remarque que dans le texte, Simone de Beauvoir opère une première distinction. Alors, il y a d'abord une distinction qui est un tout petit peu plus de la déploie. Il y aurait d'une part une parure qui serait une manifestation de l'être. Le corps serait alors le lieu d'un rayonnement d'une subjectivité. Il renverrait au reste du monde. Il serait une voie d'accès, un passage à ce monde englobé du coup dans ce corps qui est repris subjectivement. et de l'autre, une seconde modalité qui là est particulièrement développée dans l'extrait, dans lequel au contraire la parure opère une forme de coupure, dans cette coupure-là, le corps serait empâté dans son immanence, il ne renverrait qu'à lui-même, donc il ne serait qu'une pure facticité qui est sans projet. Donc qu'est-ce qu'on entend par facticité ici? Une facticité purement contingente, ici, c'est le terme logique qui nous pose la nécessité. Ici, cela rend à l'en-soi, donc à ce qui est indépendamment de la conscience et pure facticité dans le sens où cet corps se ramène dans la mesure où ce corps du coup se ramène à quelque chose qui n'a aucune explication, aucun principe. Du coup, le fait que la parure empâte la femme dans le corps, qu'elle ne renvoie qu'à lui-même, signifie que, d'une certaine manière, le corps paré est réduit à une pure chair qui n'est pas éprouvée par le sujet et finalement est aperçue comme une masse de chair sans aucune reprise par une subjectivité en pourcent. Donc ce qu'affirme Simone de Beauvoir ici, c'est que la parure, d'une certaine manière, elle conjure une certaine force du corps qui est habité par une conscience, et tout est fait pour neutraliser, d'une certaine manière, le regard, la subjecté, la position de valeur. Le but semble être d'affaiblir la femme, de l'impuissanter, et donc c'est particulièrement visible dans le texte, puisqu'elle parle d'impotence, de pétrification, de paralysie, de ce qui emprisonne, de ce qui captive. Ce sont autant d'expressions qui montrent que la parure coupe le corps féminin de toute possibilité d'être repris, transcendé par le sujet et donc de s'exister. Donc, il est particulièrement significatif à cet égard que la parure fasse écran au regard. Dans le texte, il est écrit que son regard, la femme parée, elle l'emprisonne dans l'épaisseur du col et du maquillage. Il n'est plus que l'ornement chatoyant de ses yeux. On note ici une inversion entre le regard et les yeux. En soulignant la beauté des yeux, on masque le regard. Or, le regard, c'est justement le phénomène par lequel l'autre apparaît. Il faut neutraliser les yeux pour voir le regard, de même qu'il faut neutraliser la toile pour voir apparaître le tableau. Le regard est ce qui manifeste l'autre par-delà toute conscience d'objet, c'est ce qui fait d'autrui un sujet. Si, évidemment, il est significatif que le regard disparaisse derrière les yeux, donc c'est vrai complètement. Ce dispositif-là d'écran, de coupure de la transcendance a des conséquences évidemment, puisque Simone de Beauvoir avancera qu'il faudra refuser son regard masculin pour se ressaisir et devenir soi-même. Et dans le deuxième tome, il y aura différentes façons de se reprendre à partir de ces situations qui seront présentées. Mais cette... Vous m'entendez ? Donc cette première, à la fois la cause et la conséquence pour la femme comme sujet est complétée évidemment puisqu'elle se place dans un cadre plus large et qui considère l'homme comme sujet. Donc cette fois on va voir les causes et les conséquences pour l'homme. Simone de Beauvoir souligne que cette parure, donc elle transforme la femme en idole, qu'en ce sens, elle constitue un idéal trompeur pour l'homme, mais elle précise son propos, elle souligne qu'à certaines époques, cet idéal est recherché dans la politique et que ce n'est pas la femme qui médiatise le rapport entre l'homme et son idéal. Mais quand c'est le cas, quand c'est la femme qui doit médiatiser ce rapport, il faut qu'elle soit belle. Elle mobilise ici le concept platonicien d'intermédiaire, c'est-à-dire ce qui opère le passage entre le monde sensible et le monde intelligible. Par exemple, le désir dans les faits pour l'enquête, c'est vraiment ce sens-là qu'elle entend comme intermédiaire idéal. Mais ce qui est un peu étrange, c'est qu'elle est idéale, qui ne renvoie au fond à rien, puisqu'elle ne renvoie qu'aux valeurs des hommes eux-mêmes, le corps est arrêt du désir, il n'est pas promesse d'autre chose. Donc c'est un idéal illusoire, c'est un intermédiaire entre soi et soi, sans autrui, qui est voué à l'échec, puisque le sujet lui-même, pour se constituer tout à fait, aurait besoin de l'autre. Donc c'est une forme de circuit illusoire fermé sur lui-même, comme une forme de boucle, qui barrerait plutôt l'accès à un monde enrichi des perspectives des autres, et notamment de la perspective d'une femme comme un autre. Mais cet idéal-là et cette médiation entre l'homme et l'idéal est aussi une médiation entre l'homme et la nature qui, d'une certaine manière, redouble la médiation habituelle qui se passe entre l'homme et la nature et l'homme et les autres hommes. Et il y a un article récent, Mara Montarano et Mathieu Renaud, publié en 2020 dans la revue Philosophie aux éditions de Minuit, intitulé « La dialectique du maître et de l'esclave selon Simone de Beauvoir, un exemple de transformation mythique », qui montre bien, au fond, que cette fonction d'idéalisation, elle s'opère dans un cadre plus général, de penser du passage entre la nature et la culture. Et les auteurs de l'article montrent que le motif de la dialectique du maître et de l'esclave, alors chez Hegel, mais interprété par Kogel, ici, possède une variation sur un mode mineur qui, justement, est tributaire de tout l'apport de Lévi-Strauss, qui est très présent dans le premier tome du deuxième sexe, et que, d'une certaine manière, il y a une première, une reprise de ce thème du maître et de l'esclave qui ne décrit pas les rapports des hommes entre eux et des hommes avec la nature, mais du rapport entre l'homme et la femme, dans laquelle la femme n'occupe pas du tout la position de l'esclave. Et c'est une anti-dialectique selon ces auteurs-là. Donc, ce qu'ils tendent à montrer, c'est que, d'une certaine manière, il y a une inversion dans les rapports de la dialectique, là où la dialectique classique consiste en une lutte à mort pour la reconnaissance. La dialectique de l'homme et de la femme, à laquelle la femme n'est pas l'esclave mais la nature, d'une certaine manière, ne se résout pas puisque la contradiction n'est pas résolue, mais met en scène une contradiction qui met à jour avant tout une peur de la mort, donc non pas une lutte à mort, mais une peur de la mort. La femme, elle prend plutôt la place de la nature et pas la place de l'esclave, puisque, comme le montrent les auteurs, elle est l'instrument de l'échange, notamment dans la théorie de Lévi-Strauss, et c'est elle qui médiatise les rapports non naturels entre les hommes, puisque c'est en raison de la prohibition de l'inceste que les femmes vont assurer cette circulation et vont assurer la communication entre les différents groupes et assurer l'échange d'une certaine manière. Donc la femme à la place de la nature, et ce qui se passe, c'est que les hommes trop lâches pour rentrer dans des rapports de réciprocité rentrent dans ces rapports non dialectiques avec les femmes, et la femme, d'une certaine manière, va incarner cette peur de la mort, et d'une certaine manière, incarne aussi une forme de refoulement de l'expérience de sa propre chair, puisqu'il s'agit d'une altérité qui est sans opposition, sans négation, ce que Simone de Beauvoir appelle une altérité inessentielle. Donc c'est une relation complètement asymétrique. Il s'agit avant tout d'éviter la nausée, c'est-à-dire le fait de se sentir incarné, d'avoir un corps. Et c'est uniquement à travers le corps de la femme qu'on fera l'expérience de la chair. Donc d'une certaine manière, à travers la parure qui présente la nature, mais comme le dit le texte, la dompte et d'une certaine manière la conjure ou la neutralise. Donc là, c'est une espèce de nature qui est conservée mais morte. Un artifice qui opère une forme d'idéalisation par le regard masculin et qui, d'une certaine manière, conserve mort mais présent, cette peur de la mort, et qui doit absolument, d'une certaine manière, la tenir à distance, puisque, comme le montre le texte, dès lors que la femme vieillit ou qu'elle est trop naturelle, elle inspire le dégoût. Donc il y a de nouveau cette question du dégoût qui doit être complètement conjuré. Donc, d'une certaine manière, la fonction de l'apparence serait de tenir à distance et conjurer ce rapport-là, ce rapport de dégoût. elle souligne aussi, mais c'est plus loin, que la femme peut avoir une position de regard, mais encore une fois, c'est un regard qui est désactivé de sa fonction d'apparition d'autrui. Et ce n'est pas un regard subjectif, mais un regard contemplatif d'un être qui serait complètement en dehors du monde, qui serait purement spectateur et qui n'y participerait pas. Donc, si on devait faire le bilan de cette première partie, on voit que la parure, aussi qu'un véritable argument dans cette dernière partie du premier tome du deuxième sexe, et que la fonction de cet argument, c'est avant tout de redoubler, d'une certaine manière, l'aide de l'anthropogénèse, de la façon dont on devient un homme et qu'on sort de l'état de nature, et pour montrer que, en général, dans les sociétés occidentales dans lesquelles c'est la femme qui représente une forme d'idéal, ce redoublement est fait par lâcheté et implique, d'une certaine manière, de conjurer sa peur de la mort. Donc si c'est cela l'argument tel qu'il est présenté dans l'extrait que vous avez, on peut voir que il existe également une perspective alternative qu'on peut faire émerger du texte lui-même et appuyer plus solidement sur la lecture de Villiers de Castro. Donc là, dans une deuxième partie, il s'agira de, puisque c'est écrit dans le texte, Simone de Beauvoir dit que du point de vue des primitifs, la parure peut avoir une autre fonction, qu'elle est cette fois sacrée. Donc cette fois-ci, du point de vue des primitifs, on va avoir une mise en perspective de la thèse de Simone de Beauvoir. Et donc revenir sur justement ce qu'elle appelle le point de vue des primitifs. Donc on voit bien que le texte lui-même ne prétend pas que la parure telle qu'elle a été analysée épuise l'ensemble des fonctions possibles, puisqu'il est écrit que la fonction de la parure est très complexe et qu'elle a justement parfois un caractère sacré. Donc en revanche, le problème, c'est que l'hypothèse est posée, pourtant assez vite écartée. On voit que ce n'est pas ce qui occupe Simone de Beauvoir, cette autre possibilité, cette autre fonction plus complexe que pourrait opérer la parure. Et qu'au fond, elle va plutôt être occupée par ce qu'elle appelle le rôle habituel, et plus particulièrement le rôle qu'elle remplit, dans les cultures occidentales, mais pas seulement, en tout cas ce qu'elle appelle son rôle le plus habituel, c'est-à-dire transformer la femme en idole. Si on, pour revenir sur ce point de vue des primitifs et pour essayer de montrer que à d'autres moments du texte, elle fait droit peut-être à cette autre perspective, elle dira plus loin dans cette troisième partie que l'objet érotique fait de la femme l'objet érotique fait de la femme une magicienne, une ennemie, et que dès lors qu'elle est indépendante, la femme soumettra l'homme à ses charmes, ce sera alors lui qui sera sans projet, captif, sans volonté, aliéné, et cette fois la femme prend la figure de la mort, qui n'est plus neutralisée et conjurée. Elle retourne alors, je cite, à la nature, au démon, aux chaînes des forces incontrôlables et mauvaises. Évidemment, pour Simone de Beauvoir, c'est une des conséquences néfastes du fait d'avoir refusé à la femme le droit d'être un sujet, et pour elle, la solution se trouvera dans l'égalité des droits, l'amitié, la reconnaissance. Mais les limites, selon elle, de l'éternel féminin, d'une certaine manière incarnée par la femme parée, libre, individu à la solitude, et les laisse dans cette impasse triste et mortifère. Mais si on est un peu moins fidèle au texte, on voit quand même qu'il y a une espèce d'articulation finale qui est sans doute liée justement à cette reprise de Lévi-Strauss et au fait de reprendre ce motif de la dialectique entre le maître et de l'esclave en opérant cette variation montée dans les rapports entre l'homme et la femme pour justement proposer autre chose. Et pour proposer cette autre chose, on pourrait articuler cette piste qui est implicite dans le texte avec ce que dit Villiers de Castro, et pour du coup proposer une autre perspective sur la parure. D'une certaine manière, ce que montre dans Métaphysique cannibale Villiers de Castro, c'est que pour les indigènes, les fonctions de l'âme et du corps sont inversées par rapport aux Européens, je le cite, la praxis européenne consiste à faire des âmes et à différencier les cultures à partir d'un fond matériel donné, la nature. La praxis indigène consiste à faire des corps et à différencier des espèces à partir d'un continuum socio-spirituel donné par le mythe. Il s'agit du coup de faire un monde composé de multiplicité de points de vue. Le mythe est, on dit Rosy Castro, un temps où les humains et les animaux n'étaient pas différenciés, et le discours mythique actualise du présent à partir d'une actualité, une condition pré-cosmologique, c'est-à-dire ce qu'il appelle des devenus. Ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est le corps qui est le siège du point de vue, et c'est parce que, d'une certaine manière, on a un corps qu'on peut faire droit à ce point de vue, et Vivi Rosy Castro parle d'un maniérisme corporel qui est un perspectivisme, puisque chaque corps ou incarne ou fait droit à un point de vue. Et donc, pourquoi passer par là ? D'une certaine manière, même si évidemment les concepts ne s'articulent pas entre eux, et que lorsque Simone de Beauvoir évoque le fait que le corps peut s'exister, c'est qu'il peut être habité par une conscience et une subjectivité, ça ne renvoie pas exactement à ce concept de corps qui est à la fois un point de vue. On peut penser cependant que d'une certaine manière, il y a là une façon de faire droit, même si la comparaison elle tient pas, on pourrait se dire que le fait de cette auto-présentation dont on avait parlé au tout début, quand on avait évoqué Jacques David et que Simone de Beauvoir évoque parfois lorsqu'elle pense cette ressaisie du corps par une subjectivité, on peut, même si le parallèle ne tient pas compte, mais essayer de le penser aussi comme ce corps qui incarne un point de vue particulier sur le monde. Et l'autre intérêt d'articuler, même si je le fais pour l'instant maladroitement, Vivi Rosy Castro avec ce texte et la thématique de la parure, c'est que pour De Castro, là encore, quand il compare la perspective occidentale et celle des peuples qu'il étudie, il souligne que, justement, la perspective occidentale est complètement liée à cette opposition de la nature et de la culture. Il souligne que, pour les Occidentaux, ayant été des animaux, nous le resterions au fond, alors que pour les indigènes, ayant jadis été des humains, les animaux continueraient de l'être de façon non évidente pour nous. On voit que Simone de Beauvoir reste complètement dans le cadre classique. On l'a dit, on peut le rappeler, ce qui dégoûte au fond, c'est qu'on resterait au fond des animaux, et c'est pour ça que le corps de la femme est coupé de sa transcendance et qu'il est idéalisé, pour d'une certaine manière oublier ou neutraliser cette origine dégoûtante, et d'où aussi le rapport asymétrique dans lequel l'homme va se projeter vers la chair féminine sans jamais soi-même s'apercevoir comme chair. Mais à l'inverse, on pourrait dire du coup avec Vivi Rosy Castro que ce qui est fascinant dans la parure, c'est qu'elle montre et conserve ce rapport troublant où nature et culture ne seraient pas distinguées, et justement elle fait tomber cette distinction entre la nature et la culture. Elle révélerait peut-être autre chose, et donc toutes ces pistes-là, elles sont peut-être contenues, même si j'ai conscience évidemment que c'est mon regard qui le creuse, mais dans la petite formule dans laquelle Simone de Beauvoir a conscience que la parure remplit d'autres fonctions bien plus complexes que celles qu'elle va par la suite analyser. Et mon dernier point consiste du coup à revenir sur cette idée de l'altérité, qui est une altérité inessentielle et qui est une altérité qui ne permet pas de devenir un sujet et de devenir un alter ego, selon Simone de Beauvoir. On l'a vu, les rapports hommes-femmes rejouent une dialectique inachevée, une dialectique non-dialectique dans laquelle la femme prendrait la place de la nature, et c'est bien ce que Simone de Beauvoir critique, c'est-à-dire le fait qu'il s'agit d'une altérité dans laquelle l'autre n'est pas un sujet et et n'est pas reconnu de façon réciproque. Or, c'est peut-être justement ça qui est intéressant, le fait que le rapport à la femme dans la parure soit un rapport à une altérité, d'une certaine manière, qui justement est inhumaine et ne renvoie pas du tout à l'altérité. Donc, cette altérité inessentielle. Alors, pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant alors que c'est, selon Simone de Beauvoir, préjudiciable? Bah, on pourrait se dire que c'est justement parce qu'elle présente cette altérité-là qu'elle offre la possibilité de sortir d'un cadre dans lequel le désir s'articulerait forcément de façon sociale, anthropologique, et qu'elle ferait droit à un monde sans autrui, d'une certaine manière, et ce monde sans autrui ouvrirait sur le monde et rendrait possible des devenirs, d'où le fait que, comme le dit le texte, le corps de la femme parée a une inquiétante, elle parle de la chevelure qui a ce caractère végétal inquiétant, ou le fait que la femme se fait panthère, se fait plante, etc. D'une certaine manière, on pourrait dire que le fait que ce soit sans réciprocité et qu'elle soit conçue comme une altérité qui n'est pas un alter ego, c'est aussi ouvrir la voie vers une autre façon d'articuler le désir qui n'est plus social ou anthropologique, mais justement ouvert vers autre chose, vers des devenirs, vers le monde. Et donc, en ce sens-là, ce qu'il faudrait, c'est non pas essayer de non pas rechercher une reconnaissance réciproque, mais plutôt de redoubler la symétrie, et donc plutôt que de questionner le fait que les femmes se parent, chercher à ce que les hommes se parent plus, et que eux-mêmes, d'une certaine manière, soulignent leur beauté, afin que il y ait une double asymétrie, et pour qu'eux aussi puissent faire devenir autre chose en adoptant justement ce dispositif ou cette attitude-là. En gros, pour qu'eux aussi soient des virtualités et permettent de devenir aux femmes autre chose, donc non pas des sujets et reconnaissance réciproque entre sujets, mais ouvrir la voie pour des devenirs pour les deux sexes. Donc, si je devais résumer, je dirais que ce que j'ai essayé de montrer, même si c'est pour l'instant un résultat intermédiaire d'un projet un peu plus vaste, mais ce serait que la parure, pour Simone de Beauvoir, est une mystification, un écran qui sépare la femme de son corps, qui l'empêche de le transcender, de l'exister, de le reprendre, et il est entièrement constitué par le regard masculin qui neutralise le regard de la femme comme sujet. Il s'agit pour l'homme de médiatiser son rapport à la nature en idéalisant le corps de la femme et en tenant à distance une nature inquiétante et dégoûtante, ainsi qu'une authentique relation avec la femme. Cependant, une autre perspective est possible, et cette analyse n'épuise pas toutes les fonctions de la parure, puisque selon les mots mêmes de Simone de Beauvoir, cette parure a rempli des fonctions très diverses et complexes. On peut donc la concevoir comme ce qui fait apparaître l'autre, comme une altérité qui n'est pas un alter ego, comme l'inhumain dans l'homme, et qui brouillerait la distinction entre nature et culture, et rendrait donc possible le devenir. J'espère avoir été clair. J'étais un peu idée. Je pense que ça s'est entendu.
Oui, merci beaucoup Anna pour cet exposé très riche et voilà, c'est très inspirant. Je laisse donc la parole à Nathalie. Voilà. Pour la discussion.
Entendu. Merci Aurélien. Donc je vais pas me mettre en visio pour éviter la friture. Je sais pas si vous m'entendez correctement ou si c'est un peu haché comme tout à l'heure. Non, ça va. Bon, Anna, on t'a très bien entendu quand même, hein, t'inquiète, enfin, même si c'était parfois un tout petit peu, ça a coupé de à certains moments, mais ça va, on t'entendait quand même très bien. Et donc, merci beaucoup pour ta présentation, pour ton exposé. Je trouve que c'est un propos extrêmement intéressant, novateur et très actuel. Et tu l'as voilà, aussi contextualisé au début dans le regard d'intérêt pour Simone de Beauvoir via, effectivement, notamment de manière très visible, le travail de Manon Garcia, donc la mise au programme de Terminal des textes de Simone de Beauvoir. Donc, je pense que là, on a une plateforme qui devient vraiment très visible. Donc, c'est une excellente chose. Et j'ai trouvé, effectivement, aussi très, très judicieux mise en évidence de cette thématique de la parure. De l'ornement et l'analyse qu'en fait Simone de Beauvoir. À ce propos, il y a un travail que vous connaissez sans doute de Camille Froidevaux-Métry, qui a écrit beaucoup, enfin c'est vraiment son. Elle est dans cette question depuis très longtemps, du corps, enfin de l'intime, dans un engagement féministe, etc. Donc elle a une façon de repenser la parure. Le maquillage, la façon de s'habiller, les bijoux, tout ça, enfin, de façon un peu à rebours justement du diagnostic de Simone de Beauvoir, dans la mesure où c'est une façon pour elle aussi de revaloriser cette dimension. Donc elle a une analyse assez critique en fait de Beauvoir de ce point de vue-là. Enfin, elle le repense tout à fait autrement. Donc voilà, moi j'aurais une première question par rapport à ça. Comment tu te situes toi de ce point de vue-là? Bon, c'est juste un peu contextuel, hein, c'est lié à son travail et je trouve que c'est à la fois intéressant et moi j'ai aussi quelques réserves par rapport à cette façon de voir les choses. C'est un propos qu'on peut juger. Presque un peu conservateur, mais bon, c'est ma façon de voir les choses. Ça m'intéresserait d'avoir éventuellement ton avis. Et j'ai trouvé très intéressante ta mise en perspective avec Virus de Castro, que je connais indirectement en fait, par un ami, par Jean-Christophe Godard, qui est à l'Université de Toulouse et qui, bon, c'est vraiment le champ, il travaille beaucoup sur cette question anthropologique à partir de cet auteur en particulier. Donc j'ai beaucoup discuté avec lui de son travail, mais je ne l'ai pas lu personnellement. De ce qui, effectivement, on voit bien l'alternative que ça peut représenter et comment ça peut permettre de pousser plus loin la réflexion de Simone de Beauvoir, voire peut-être de faire apparaître certaines de ses limites. J'ai trouvé que vraiment c'était intéressant comme alternative et comme mise en perspective également. Au-delà de la question, donc la première question ce serait comment tu te situes par rapport à la position de Camille Froidevaux-Métry? Est-ce que tu veux la reformuler un tout petit peu ou bien qu'est-ce que tu peux nous en dire entre Beauvoir et le propos de cette femme féministe, enfin qui d'ailleurs en sciences politiques au départ, d'ailleurs qu'en philosophie, comment tu te situerais. Et puis, une question peut-être plus de fond, ce serait concernant finalement la parure, c'est un symptôme, en fait, qui est absolument emblématique, effectivement, de la manière dont Simone de Beauvoir analyse l'objectivation de la femme. Enfin, j'ai beaucoup aimé la formulation que tu as eu au début en disant que les femmes sont engluées dans le rêve de l'homme. Je trouve que c'est vraiment tout à fait bien dit et ça correspond tout à fait à la thèse de Simone de Beauvoir. Donc, ils empêchent d'être elles-mêmes, enfin, d'exister, de s'exister, c'est tout le vocabulaire sartrien, donc d'avoir la possibilité d'être en elles-mêmes, pour elles-mêmes. Et donc, je trouve que la parure, effectivement, c'est un symptôme puissant pour faire le fil conducteur à l'analyse de Beauvoir. Et la question que je me posais à partir de là, finalement, c'est si ça a un rôle aussi fort, est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce que tu penserais de l'idée de situer finalement cet investissement de la parure sur ce mode-là par Simone de Beauvoir, de le situer en fait, de situer ou d'historiciser peut-être cette conception ou cette analyse, cette diagnostic, et en le situant dans un paradigme qu'on pourrait considérer finalement assez étroit, en disant que au fond les choses sont pensées de cette façon-là dans un contexte temporel et spatial finalement très délimité, qui pourrait correspondre à ce que on pourrait appeler par exemple l'époque de la représentation, à savoir une époque qui va grosso modo de l'époque classique, fin de la Renaissance 16e jusqu'au 20e siècle, qui est caractérisée par une montée en puissance du schéma de la réflexivité, plus récemment pour nous encore du rapport aux images, mais bon, dès le 18e aussi. Toute une époque finalement qui s'est construite dans un jeu de miroir et dans un jeu de perception des autres qui viennent alimenter justement ma propre capture. Donc le diagnostic de Simone de Beauvoir, il pourrait s'inscrire dans ce cadre-là, en se focalisant sur peut-être les femmes comme étant particulièrement exposées à cette conception-là. Mais je me demande si finalement, tu as amorcé un petit peu la chose déjà hein, de toute façon, mais finalement, est-ce que on pourrait pas penser cela de manière très étroite, en disant en réalité, avant cette époque de la représentation, après, donc peut-être est-ce qu'il y a un après déjà, ce qu'on vit aujourd'hui, est-ce que ça dépend encore de ce schéma-là ou est-ce qu'on n'est pas déjà dans un après ailleurs? Oui, est-ce qu'on n'a pas là finalement beaucoup d'autres marges de manœuvre qui nous permettraient de penser les choses tout à fait différemment? Alors tu as pris appui sur justement l'alternative avec d'autres cultures, donc les primitifs, les indigènes, un autre rapport au monde, une continuité entre la nature et la culture, un rapport encore différent. Est-ce qu'on pourrait pas évoquer un tout petit peu les animaux, justement, en disant que dans le règne animal, c'est l'homme qui se pare, enfin c'est le mâle qui est paré, et la femme finalement est en couleur, hein, grise, donc elle est invisible, et c'est l'homme qui porte finalement la visibilité, donc c'est un peu inversé. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres rapports au monde et d'autres continuités, par exemple, à aller chercher aussi du côté des enfants, du côté des fous, donc un certain nombre de figures comme ça, qui dessinent peut-être une autre cartographie de la relation, d'une autre relation au monde, une autre relation au corps, qui n'est peut-être pas placée sous le signe de la représentation, et où du coup la parure soit joue un rôle inversé, soit joue un autre rôle, soit ne joue pas de rôle du tout. Par exemple, je pense que chez les enfants et chez les fous, je ne sais pas si la parure a vraiment du sens. Est-ce que c'est quelque chose, le fait de se faire voir, de se présenter, d'apparaître, je pense que ça ne correspond pas forcément à un mode d'être principal. Je voulais savoir un peu comment tu te situais, sachant que tu as déjà été évidemment dans cette direction. Et pour moi, ça renvoie de manière plus fondamentale à ces quatre figures-là, en l'occurrence. C'est vrai que je les rapatrie dans un contexte qui est un contexte phénoménologique lié à ce que moi j'ai appelé une altérologie, c'est-à-dire un autre rapport au monde, un autre rapport au corps, qui ne passe pas par le schéma de la réflexivité, mais qui est antéréflexif, donc qui institue un rapport au corps beaucoup plus dans l'immanence. Par ailleurs, qu'on trouve par ailleurs dans la conception solienne du monde de la vie. Et du coup, dans ces contextes-là, j'ai l'impression que le diagnostic de Simone de Beauvoir, finalement, il est juste, mais il est très local. Non seulement il est local parce qu'il correspondrait à un moment très particulier de notre histoire et de notre rapport au temps et à l'espace, et donc elle est bien dans son temps, hein, mais c'est finalement très situé, alors ça va dans le sens de cette même situation. Et par ailleurs, c'est un diagnostic qu'elle focalise sur la femme, de fait, parce que dans la situation, effectivement, de son combat, c'est ce qui se passe, mais je me demande si ce n'est pas un peu local, en fin de compte. Voilà. Mais en tout cas, mes questions sont le signe que ton propos était très inspirant. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ces retours, en effet, qui qui sont aussi qui vont m'aider à préciser des choses et qui donnent beaucoup à penser. Parce que les deux dernières pistes que tu évoques, enfin, je ne les avais pas du tout, et donc ça me donne de nouvelles, ça enrichit complètement la pensée. Pour la première question, j'avais lu en effet un article au tout début on va dire, de ma recherche sur ce sujet de Camille Froide-Bolamétri. Du coup, c'était il y a un moment, donc j'avoue que mes souvenirs ne sont pas très nets, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une similarité dans la critique qu'elle apportait, mais en fait, je m'en suis très vite, c'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué, que je ne m'en suis pas servi, c'est que je me suis très vite, j'ai l'impression de ne pas apporter la même réponse, et si je n'ai pas évoqué le texte, c'est parce que d'une certaine manière, je l'ai écarté en me disant que c'était pas, que ça ne correspondait pas vraiment à la même approche. Mais j'avoue ma limite, puisque je l'ai un peu du coup oublié. Mais au niveau de la critique de cette définition de la parure et la revalorisation de l'ornement du maquillage, il y avait quelque chose de similaire dans cette tentative de repenser la parure, mais sans pouvoir le dire, puisque j'ai oublié, mais je me souviens m'être très vite senti quand même, avoir senti trop d'incompatibilité finalement dans le propos que moi je voulais tenir, et du coup j'ai un peu écarté cette approche. Et alors après, par rapport à la question de la situation et de l'historisation, en fait, d'historiser le paradigme. Peut-être sur la question historique, alors même si ça n'appartient pas au champ philosophique académique, moi j'avais du coup très rapidement aussi relu pour la première fois le livre de Mona Chollet, Beauté fatale, puisque je me disais que c'était aussi une tentative à notre époque de penser justement la parure. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, enfin, la thèse en tout cas de Mona Chollet, du coup qui n'est pas du tout philosophe, qui est essayiste, mais voilà, qui a le mérite d'avoir relancé cette question il y a 10 ans, et voilà, peut-être que ça a aussi fait partie de tout ce renouveau et de cet intérêt pour un certain nombre de textes, de thèses qui n'étaient pas considérées avant. En tout cas, sa thèse, c'est de dire que là où les femmes ont gagné des droits, là où les femmes, d'une certaine manière, ont acquis une position qu'elles n'avaient pas évidemment à l'époque où Simone de Beauvoir écrivait, alors qu'elles ont acquis tout ça, d'une certaine manière, leur asservissement ou leur aliénation s'est maintenu dans le domaine du physique, de l'apparence, et d'une certaine manière, ce serait le dernier terrain à conquérir, ce serait le corps, et comme pour faire payer aux femmes le fait qu'elles aient acquis des droits politiques et sociaux, les hommes les maintiendraient d'une certaine manière asservies, soumises ou aliénées sur ce plan-là. Donc je ne sais pas si aujourd'hui, voilà, c'est un livre qui brasse beaucoup de documents justement du quotidien, des journaux, tout ce qui peut. Je pense que la dimension qui est critiquée par Simone de Beauvoir, elle peut encore exister aujourd'hui, et malheureusement. Je suis pas certaine qu'on soit sorti de ce rapport représentatif d'un point de vue, on va dire, purement historique ou social. Après, du point de vue conceptuel, ce qui m'a interpellée, c'est à la fois qu'elle, elle est complètement dans ce paradigme de la représentation, peut-être justement parce qu'il y a cette reprise du schéma justement hegelien, de la question d'identité, de devenir soi-même, etc., et qu'il y a ce champ de la représentation, mais en même temps, dans l'usage qu'elle fait de Lévi-Strauss et dans sa façon elle particulière de l'articuler, c'est comme si dans le texte lui-même, il y avait les outils pour penser un au-delà de la représentation, ou justement quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Donc à la fois, elle s'y inscrit totalement, et à la fois, même si, quand bien même c'est quelque chose qu'elle condamne et qu'elle critique, elle présente quand même une pensée de l'altérité qui est une altérité inhumaine. Pour elle, c'est ce qui pose problème, et il faudrait que la femme devienne un sujet et que ce soit un sujet reconnu et que les rapports entre les hommes et les femmes soient réciproques. Donc elle le critique, mais en le critiquant, elle le conceptualise aussi. Et je trouve cette conceptualité, pour moi, elle constitue un intérêt. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une première façon de faire droit quand même à une forme d'altérité. Une première façon, puisque tu évoquais Husserl et qu'il y avait d'autres rapports au temps et à l'espace qui sont non représentatifs, mais en tout cas, c'est une façon singulière, en tout cas, propre à Simone de Beauvoir. Quand bien même, en réalité, elle soutient pas cette position, donc c'est plutôt pour elle un outil critique. Donc, d'un point de vue historique, que c'est lié à un temps et une époque, sans doute, oui, mais de là à dire qu'on en est sorti, je sais pas si je pourrais m'avancer.
Merci beaucoup. Hein. C'est effectivement tout à fait intéressant. Enfin, je pense que concernant la position de Camille Froide-Vaumétry, effectivement, moi, j'ai lu un peu des choses d'elle. Enfin, et je faisais le lien parce que le thème, s'y prêtait évidemment. Hein, donc, ça me semblait intéressant de noter sa position. Moi, je pense qu'effectivement, elle est dans une perspective, je le disais un peu de manière soft. Enfin, je pense qu'elle est dans une perspective assez conservatrice. Donc, je ne pense pas qu'effectivement ce soit. J'ai vu dans quel sens toi tu avances, ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Donc, ça pourrait être intéressant pour toi même de le relire, de relire son travail pour mieux te situer, même de façon critique. Enfin, je pense que ça peut être une manière de mieux délimiter encore là où tu ne veux pas être. Enfin, donc, c'est toujours intéressant même quand on dans ce travail de recherche enfin, de dire ce qu'on ne fait pas, enfin, et pourquoi on ne le fait pas et pourquoi on n'est pas là. Ça permet de mettre plus d'accent sur ce qu'on fait. Et sur l'autre point concernant la position de Simone de Beauvoir et le fait qu'on soit sorti ou pas de la représentation, donc je pense que tu as complètement raison. Enfin, je pense que le travail de Mona Chauvin qui a fait avec elle et montre encore effectivement les ambivalences et les dilemmes, enfin, la manière dont les femmes sont prises avec ces questions. De paraître, d'apparaître, enfin, et pas seulement les femmes, je dirais, enfin, c'est vrai, aujourd'hui, je dirais qu'il y a même des déplacements, c'est-à-dire que c'est vrai aussi pour la génération jeune, enfin, pas seulement les jeunes filles, enfin, donc je pense que le projecteur, finalement, de la présentation de soi, enfin, c'est devenu quelque chose qui déborde, en fait, même, je dirais aujourd'hui, le cas des femmes. Et donc il y a peut-être une surreprésentation aujourd'hui, on n'est peut-être pas du tout dans le passage à autre chose, mais en même temps, enfin, je crois que tout avance pas au même niveau et au même rythme. Enfin, souvent, on n'est pas conscient que, enfin, on sait bien qu'on passe pas brutalement d'un paradigme à un autre, donc peut-être qu'on est dans une situation aujourd'hui de crise telle, mutation telle, en fait, il y a plein de choses qui étaient déjà là en germe, y compris chez Simone de Beauvoir. Ou chez dans d'autres secteurs en fait et dans d'autres à certains endroits de notre société enfin qui sont déjà en train de mettre en place d'autres paradigmes et puis d'autres endroits où on est encore dans des paradigmes très très marqués justement par cette présentation exacerbée de soi enfin je pense que ça on avance à plusieurs vitesses et que le diagnostic de Simone de Beauvoir effectivement il reste complètement pertinent. Même si c'est vrai que, je pense que ce que tu disais de la parure, c'est vrai, c'est aussi du corps lui-même. C'est-à-dire qu'en réalité, elle a un diagnostic très fort revendicatif concernant la nécessité pour les femmes, en l'occurrence, dans son cas, de s'émanciper, et donc de retrouver un rapport à leur propre corps. Et en même temps, finalement, le diagnostic qu'elle pose sur le corps et sur tout ce qu'il a le met en valeur est un diagnostic très négatif. C'est valable dans d'autres expériences comme l'expérience de la puberté, des règles, enfin de la grossesse. Enfin, le diagnostic est quand même très marqué négativement, même si elle évoque toujours l'autre possibilité. Mais pour l'idéaliser ou pour montrer que c'est quelque chose d'un peu romantique. Enfin, donc, qui n'est pas forcément tenable. Effectivement, je pense qu'il y a plein de choses à reprendre de Simone de Beauvoir. Et en même temps, comment est-ce qu'on l'organise aujourd'hui dans notre propre situation enfin, qui de fait est plus la même quand même, je dirais, que celle de Simone de Beauvoir. Et puis pour terminer juste, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais je vais vous laisser discuter, il me semble qu'il y a aussi un rapport à l'identité qui n'est plus le même aujourd'hui par rapport à ce que Simone de Beauvoir pouvait nous montrer et ce dont elle connaissait. Dans la mesure où si la femme, si les femmes cherchent à être plus en relation avec elles-mêmes, à s'identifier, à être libre, à être, etc., c'est parce qu'on est quand même dans des polarités d'identité très construites homme-femme, et biologiquement assez inscrites, alors que finalement, je pense qu'aujourd'hui, depuis quand même plusieurs décennies d'ailleurs, il y a une visibilisation justement de changement identitaire, enfin, qui fait sans doute aussi beaucoup bouger les choses. Tu parlais de la façon dont les hommes pourraient être plus sensibles justement à être montrer leur beauté, se mettre en valeur, se maquiller, etc. Je pense que dans des paradigmes de transitionnement identitaire, enfin, et de voilà, de d'homosexualité, enfin, le rapport à la beauté, à l'esthétique est beaucoup plus partagé en fait que sectorialisé chez les femmes. Donc là, il y a une visibilisation qui fait que ça fait bouger beaucoup les lignes aussi à ce niveau-là. Mais bon, là, ça va dans le sens aussi un peu de ce que tu disais. Bon, voilà, je ne veux pas prendre trop longtemps non plus, mais en tout cas, je trouve que c'est passionnant. Et là, du coup, j'ouvre la discussion à d'autres que moi et que Anna, si vous avez des questions.
Merci.
Merci à toi.
Oui, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions. Moi, sinon, j'ai aussi deux petites questions qui me sont venues. Bon, s'il n'y a personne, je propose. Alors d'abord, c'est une petite remarque pour savoir si, du coup, ce que ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé justement des devenirs. Des devenirs et des virtualités qu'il y a dans la parure, que permet la parure. Je ne savais pas si Anna t'avait eu aussi vent un peu de ce qu'avait, je pense, dans la même veine, avait un peu repris Baptiste Morisot dans Manière d'être vivant. Il est dans une veine assez proche de Biberos de Castro et il fait toute une analyse justement un peu de ce devenir, d'un devenir panthère ou d'un devenir antilope. En lien justement au maquillage, et c'est une manière pour lui de repenser, tu vois, d'ouvrir l'altérité pour essayer de penser et qu'on est traversé, que tout individu est traversé par des vivants, et donc ça résonne bien avec, je pense, voilà, le cadre voilà, des devenirs dont tu parles. Donc voilà, est-ce que tu avais eu vent de un peu de ces analyses-là. Et puis, une deuxième, c'est moins une remarque qu'une petite question, c'est c'est aussi un repoussoir pour toi, toute la théorie psychanalytique de la mascarade, qui en fait est théorisée au départ par Joanne Rivière, hein, comme cette stratégie de séduction, en fait, et donc en fait, où les femmes ont des aptitudes intellectuelles et professionnelles, se prémunissent en fait contre la vengeance paternelle en affichant une féminité ostensible. Et donc je me demandais, parce que c'est finalement une thèse très différente de la tienne, dans la mesure où du coup la mascarade, c'est une parure rusée, quoi, c'est une ruse de la femme, et elle est plutôt l'ostension d'une subjectivité. Du coup là, il y a vraiment un sujet de la parure, quoi. Voilà. Et donc est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est valable, ou est-ce que c'est un repoussoir, quelque chose duquel tu te différencies.
Alors pour Morisot, j'en ai vent, mais je ne l'ai pas encore vraiment lu. C'était partie des choses que j'aimerais lire, donc ça ne m'étonne pas qu'il développe ces thèmes-là, mais j'ai pas encore lu, donc je peux pas répondre. Ça fait partie des choses que et en fait c'est un peu pareil pour la mascarade, c'est-à-dire si je l'ai pas hanté aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas encore assez de distance, et donc j'avais pas trop présenté quelque chose. C'est toujours le cas à l'instant. Enfin, sinon, je l'aurais présenté, mais je n'arrive pas encore à me positionner. Je n'ai pas encore fait ce travail pour retracer, mais ça fait évidemment partie des choses que j'aimerais faire. Et c'était le projet originel, c'était ça. Et c'était aussi de revenir à Roger Caillois aussi, qui est peut-être aussi une autre des origines de cette mascarade lacanienne. J'avais d'autres... ça faisait partie du projet, mais j'arrive pas encore à me situer, sinon j'en aurais parlé. Mais je le ferai.
Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Alexis ou quelqu'un d'autre. Oui, alors je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres remarques, on peut en rester là. En tout cas, je voulais encore te remercier, Anna, pour ton exposé, comme j'ai dit au départ, riche et très riche et inspirant, qui ouvre pas mal de perspectives, justement. Je voulais aussi faire remarquer que c'est un travail que tu vas peut-être pouvoir publier dans un avenir assez proche, donc j'espère vraiment que ça aboutira à une publication et sinon je tenais à remercier tout le monde pour avoir écouté et puis j'espère vous revoir la prochaine séance je crois que c'était le 17 février avec Mathieu Chénier. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore, Anna.